c'est parti.
Ok, ben vas-y, c'est alors... Parti.
Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif, et ça nous permettra de nous projeter jusqu'à la pause estivale, c'est-à-dire ce qu'on pourra aborder comme sujet jusqu'à la pause estivale. Et comme je disais, quelques devoirs de vacances. Et donc on va parler de la conservation de la quantité de mouvement, qui explique entre autres le recul d'une arme à feu. Je vous donnerai quelques petites saveurs historiques liées à l'affaire Dreyfus, à ce sujet, figurez-vous. Donc c'est aussi cette conservation de la quantité de mouvement qui permet la propulsion d'une fusée, y compris dans le vide. C'est pas toujours facile d'expliquer à un enfant, par exemple, comment un avion peut se propulser dans l'air, mais alors la fusée, comment elle fait, sur quoi elle s'appuie pour se propulser dans le vide. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Pourquoi ça passe pas mon truc, hein? C'est parce que je suis pas sur le... Comment ça marche? Il faut que je me mette sur l'écran. Où il y a... Il est où mon écran? Oui, ah voilà, il est là mon écran. Oui, voilà. Et là, peut-être ça va marcher. Il veut pas passer. Je comprends pas, il y a marqué 1, 2... Ah si, ben voilà, les récupitatifs, on y est. D'accord. Oh là là, je ne sais pas comment ça marche, s'il ne va pas revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça, vous avez le récapitulatif devant les yeux, tous, c'est bon?
Oui.
Ok.
Non.
Non, vous n'avez pas quelque chose qui dit récapitulatif, zéro, la Lune vue par Galilée?
Si, si.
Si, c'est
bon. Bon, ok, parfait. Donc, on avait vu, en fait, en avant-première des chroniques... petit discours sur la Lune telle qu'elle avait été vue par Galilée en 1609 avec sa lunette et le fait que ça mettait à mal le dogme dans lequel était inscrit la description entre guillemets scientifique de l'univers, le dogme chrétien, parce qu'on voyait des défauts à la Lune et ça c'était pas prévu que le domaine divin, le domaine du ciel au-delà de la Lune, à partir de la Lune et au-delà soit autrement que parfait. Cette perfection impliquait des sphères parfaites, pas de cratères sur la Lune, ni de taches sur le Soleil d'ailleurs, que Galilée a pu aussi observer, ça c'est un autre sujet qu'on n'a pas encore vu, pas d'autres mouvements que des mouvements parfaits, c'est-à-dire des mouvements circulaires, donc pour le mouvement des planètes, et évidemment la Terre comme centre de l'univers. Donc, à partir du moment où on commence à mettre à mal un dogme, c'est ça le problème avec les dogmes, c'est qu'ils ne sont pas très souples, ils sont même en général très rigides. Donc, dès qu'on commence à vouloir enlever un bout, tout s'écroule. C'est difficile. Pensons, par exemple, à l'invention de l'Immaculée Conception, qui est, rappelons-le, l'Immaculée Conception, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui a été conçu de façon immaculée, ça veut dire que c'est la Vierge qui a été conçue de façon immaculée, c'est-à-dire qu'elle a été conçue avant le péché originel, parce qu'il n'était pas possible de concevoir que le Fils de Dieu, qui était lui-même divin, ait été justement conçu par une mère teinte par le péché originel. Donc vous voyez un peu le genre de contorsion qu'un dogme implique. Ça a été inventé au XIXe siècle, c'était l'époque aussi où il fallait faire attention de mettre une feuille de vigne devant la position potentielle du nombril d'Adam et d'Ève, parce que n'étant pas né d'une femme ou d'une femme, l'un comme l'autre, il ne pouvait pas avoir de nombril. Alors c'était quand même embêtant, parce qu'ils devaient aussi être à l'image de leurs enfants, etc., et de toute la race humaine. Donc pour couper court au débat, on mettait une feuille de vigne aussi devant les nombrils. Vous pouvez vérifier. Donc c'était intéressant, le XIXe siècle, il y avait quand même une forte emprise sur la réflexion humaine des dogmes religieux. Contrairement, évidemment, au XXIe siècle, parfaitement libre de toutes ces choses-là, comme nous le savons tous. Alors, ensuite... On avait vu que la Lune avait une vraie influence, contrairement aux fausses influences du genre il faut semer en Lune montante et il faut récolter en Lune descendante, tout ce genre de bêtises-là. Alors ça, c'est de la zététique, c'est intéressant de savoir si, par exemple, il y a des agriculteurs qui ont pris un champ, deux champs côte à côte, un pour lequel ils ont fait ce que dit l'almanach du parfait semeur en fonction de la Lune, et puis un autre où il n'a pas fait la même chose, et puis voir si sa récolte, dans un cas et dans l'autre, ont été différentes. Ensuite, donc, la vraie influence de la Lune, ben, c'est les marées, et puis on avait vu aussi qu'on pouvait bien comprendre l'origine de notre satellite naturel. Puis on avait discuté du fait que dans un bateau à vitesse constante, on était incapable de savoir s'il était immobile ou en mouvement. Ça, c'était l'idée de Galilée, et qu'on connaissait bien ça comme sensation dans un train qui démarrait très lentement. Et que ça remettait en cause toute la physique d'Aristote, qui considérait le mouvement comme artificiel, sauf les mouvements naturels des éléments vers le lieu naturel de leur place, c'est-à-dire les plus lourds vers le bas et les plus légers vers le haut. Donc il était normal qu'une pierre tombe vers la terre, parce que la pierre était constituée essentiellement d'un élément, d'un des quatre éléments, c'est-à-dire la terre, donc elle voulait rejoindre son élément. On parle toujours d'éléments, hein, quand on dit rejoindre son élément, l'eau, etc. On utilise toujours cette notion-là. D'ailleurs, nous, on fait de la physique des particules élémentaires, et ça, c'est hérité de la physique d'Aristote, en fait. Ces termes-là, en tout cas. Ensuite, on a vu que la physique de Galilée permettait de comprendre des choses intéressantes, y compris sur la façon dont Nadal arrivait à propulser des balles à 200 km/h et au-delà. Et puis, qu'il y avait une notion de quantité de mouvement, qui est le produit de la masse de l'objet par sa vitesse, et que cette quantité de mouvement était conservée lors d'un choc, un choc élastique dans ce cas-là, et c'est ça qui expliquait le carreau à la pétanque. Par exemple. Et on pouvait aussi expliquer, avec toutes ces choses-là, les catapultes gravitationnelles qui permettaient de catapulter, c'est le cas de le dire, des sondes interplanétaires vers leur destination. Voilà, donc ça c'est un récapitulatif relativement rapide de ce qu'on a pu déjà discuter. Et aujourd'hui, alors, est-ce que ça va passer? Je ne comprends pas comment ça passe ou que ça passe pas. Il faut que je clique là. Peut-être. Si je fais ça, est-ce que ça marche, ça?
Bah, tu as une flèche.
En bas, j'ai une flèche. Ah oui. Si je fais ça, c'est bon là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Et là, c'est la page 3. Conservation de la quantité de mouvement, donc. Donc, on avait discuté un wagonnet de mine qui, roulant à une vitesse par exemple de 1 mètre par seconde, donc 3,6 km/h, heurtait à un autre wagonnet similaire au moyen d'un ressort, et on voyait le ressort qui s'écrasait et qui fournit du coup une force de freinage au premier wagonnet, mais en même temps il fournit une force opposée d'accélération au deuxième wagonnet, et à la fin de l'interaction entre les deux wagonnets par l'intermédiaire de ce ressort, le premier wagonnet est arrêté et le deuxième est mis en mouvement. Et on retrouve la même vitesse. Et c'est le même principe que le carreau à la pétanque, ou ce qu'on appelle aussi les pendules de Newton, ou encore, ça marche aussi très bien, avec le jeu de billard. Ensuite, donc ça c'est juste un rappel. Ensuite, si maintenant on reprend cette fois-ci les wagonnets de mine, toujours remplis de charbon, une tonne, et on va avoir toujours un qui va à 1 mètre par seconde et l'autre qui est immobile. Mais là on change les choses, il n'y a pas de ressort entre les deux, et donc au contraire, le premier wagon va rentrer, se clipser dans le système d'accrochage des wagons. et se coincer, entre guillemets, là-dedans, avec le deuxième wagon. Donc les deux wagons vont devenir solidaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, comme on est dans un laboratoire de physique expérimentale, on fait la manip, et puis on voit ce qui se passe. Alors, faire la manip, dans ce cas-là, consisterait à utiliser deux balles avec du velcro, et puis en lancer une vers l'autre et voir ce qui se passe. Donc, si vous avez ou du scotch, double face, ou des choses comme ça. Donc, si vous avez l'envie, faites-la. Moi, je vous ai préconisé, la physique, c'est une science expérimentale, donc il faut, si on veut bien être sûr qu'on a compris, et puis c'est joli quand ça marche, il faut vérifier que ça marche. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais aussi, on peut faire de la théorie, comme nos voisins du CPT, et on va essayer de faire un petit peu de théorie. Donc, l'expérience montre que les deux wagonnets vont à 0,5 km/h. Ça, c'est intéressant. Alors, vous connaissez aussi quelque chose qui va de nouveau se voir à la télévision, c'est le principe du plaquage et de bloquer son adversaire qui veut marquer un essai au rugby. Donc, on a un joueur qui se dirige de façon perpendiculaire à la ligne de marquage d'essai à une certaine vitesse, grande vitesse par exemple, 10 mètres par seconde, il est très très rapide, et il fait à peu près une centaine de kilos, hein, donc ça fait une belle quantité de mouvement, et puis latéralement, vous avez un arrière qui tente de l'arrêter, donc qui va, lui, en courant le long de la ligne d'essai, il va l'attraper en plein vol et le plaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Si il arrête juste avant la ligne d'essai, un peu plus exactement, s'il le plaque juste avant la ligne d'essai, bon, d'abord, ils vont faire un choc qui sera en effet un choc comme les deux wagonnets, ils vont s'accrocher l'un à l'autre. Mais ce qui va se passer, c'est que, hélas, pour l'équipe qui se défend d'un essai, c'est que sur l'élan du premier, l'ensemble des deux vont toujours avoir une quantité de mouvement qui va toujours vers la ligne d'essai, et ils vont traverser la ligne d'essai. Donc, le joueur sera plaqué, mais il aura encore un peu de mouvement qui va lui permettre, même avec son adversaire accroché à lui, de passer au-delà de la ligne d'essai et donc de plaquer le ballon de rugby au-delà de la ligne d'essai et de marquer l'essai. Donc si on veut arrêter son adversaire, il faut compenser cette quantité de mouvement en l'attaquant de front, ce qui est beaucoup plus douloureux pour l'un comme pour l'autre. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, ou alors il faut l'arrêter suffisamment longtemps avant la ligne d'essai pour qu'ils tombent tous les deux par terre et que le frottement des deux corps sur le sol les arrête avant la ligne d'essai. Voilà. Alors maintenant, revenons à nos wagonnets qui glissent sans frottement sur leur rail. Et on va supposer que la quantité de mouvement totale ne change pas par le fait qu'ils s'accrochent. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on est dans la phase où le premier wagonnet s'approche du second, le second wagonnet est immobile, donc il a une quantité de mouvement égale à 0. Le premier wagonnet a une quantité de mouvement qui est égale à 1 mètre par seconde multiplié par 1000 kg, donc 1000 kg mètre par seconde. Ok, très bien. Et maintenant, on va supposer que la quantité de mouvement totale ne change pas, c'est-à-dire que les deux wagonnets accrochés ensemble vont avoir une quantité de mouvement de 1000 kg mètre par seconde. Alors, à ce moment-là, on voit bien que comme chacun, ils ont une masse de 1000 kg, l'objet au total constitué des deux wagonnets a une masse de 2000 kg, et pour que la masse totale, c'est-à-dire 2000 multipliée par la vitesse totale, c'est-à-dire celle qu'on cherche, fasse 1000, il faut que la vitesse ne soit plus de 1 mètre par seconde, mais de 1,5 mètre par seconde. Parce que 2000 fois 1,5, ça va nous faire de nouveau 1000 kg mètre par seconde. Donc ça, c'est la supposition théorique, et alors elle est basée sur une observation, par exemple. C'est que quand les enfants se bagarrent à l'arrière de la voiture ne ralentit pas, ni n'accélère d'ailleurs. Elle peut un petit peu osciller sur ses amortisseurs si les enfants sont un peu grands et très très turbulents. La voiture peut s'arrêter si papa ou maman dit « Attention, si je m'arrête, ça va être la fessée ». Mais, en tout cas, ce n'est pas le mouvement à l'intérieur. Alors, désolé, il y a un horrible bruit. Des voisins qui font des travaux. On va attendre la fin de la perceuse. En général, c'est court. Sauf là. Pas de chance. Ouf, je crois que c'est fini pour un certain temps. Donc je disais, eh non, les deux wagons vont donc, d'après cette théorie-là, de la conservation de la quantité de mouvement, vont donc à un demi-mètre. Alors on va passer à la suivante. Donc, maintenant, comment comprendre ça? Si on se place dans le repère galiléen qui va à un demi-mètre par ce... un demi-kilomètre heure, pardon, un demi-kilomètre heure. En fait, je voulais dire un demi-mètre par seconde. Je voulais dire un demi-mètre par seconde. Vers la gauche. C'est pas vrai. On va voir... le wagon de gauche qui se dirige vers nous, évidemment. Alors ici, j'ai représenté la flèche rouge. C'est la flèche qui correspond à la soustraction qu'il faut faire. Donc à gauche, ça nous fait une vitesse dans l'autre sens du wagon qui se dirige vers nous, du coup. Et puis à droite, ben, ça soustrait un demi-mètre par seconde. Excusez-moi, c'est des mètres par seconde et pas des kilomètres heure. Ça soustrait un demi-mètre par seconde, et donc le wagon, puisque nous-mêmes on va déjà un demi-mètre par seconde, le wagon par rapport à nous, il s'éloigne d'un demi-mètre par seconde. Donc on se retrouve dans la situation où on voit deux wagons qui vont face à face se heurter. Et donc dans ce repère-là, la quantité de mouvement, elle est nulle, puisque c'est des vecteurs, c'est des flèches, hein, le vecteur P1 à gauche, il va vers la droite, et le vecteur P2 à droite, il va vers la gauche, les deux vecteurs violets. Donc, ils se compensent l'un l'autre. La quantité de mouvement totale, elle est nulle. Après le choc, on fait de même, et on se retrouve avec les deux wagons qui vont à un demi-mètre par seconde. Je soustrais un demi-mètre par seconde, puisque je vais dans ce référentiel-là, dans ce repère galiléen. Et donc, j'ai bien mes deux wagons qui sont immobiles. Tout se passe comme on l'attend. C'est logique, tout ça. Et on voit qu'à ce moment-là, la quantité de mouvement, elle est nulle aussi, c'est-à-dire c'est 0 plus 0, donc ça fait bien 0. Donc on part d'une situation où dans ce repère galiléen, les deux wagonnets vont se heurter face à face avec des vitesses égales et des masses égales. Et à la fin, on se retrouve avec un objet immobile deux fois plus massif. Donc on a bien, là aussi, dans ce repère, conservation de la quantité de mouvement, et on a retrouvé une sorte de symétrie dans cette façon de voir les choses. Et je vous rappelle que le principe de relativité de Galilée, c'est qu'on ne peut pas différencier la physique en fonction de la vitesse du repère dans lequel on se met pour faire l'expérience. Donc la physique doit être la même. Si la quantité de mouvement est conservée dans le repère où on voit les deux wagons aller face à face et se heurter, et puis s'arrêter, tous les deux, la quantité de mouvement doit être aussi conservée dans un autre repère. Donc, quelque part, ça valide, du moins ça conforte, c'est cohérent avec le principe de relativité de Galilée, cette théorie. Et si on fait l'expérience, on se rend compte que ça marche. Voilà. Ensuite, bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On connaît aussi l'exemple des patineurs. Donc, s'ils sont sur la glace et que leurs patins glissent bien... Ben, au début, ils sont immobiles, et puis s'ils se repoussent, donc la quantité de mouvement de l'ensemble des deux est nulle, ils sont à 0 plus 0. Et puis, s'ils se repoussent, eh bien, ils prennent tous les deux de la vitesse, mais pas obligatoirement à la même vitesse, l'un et l'autre. Hein? On s'attend bien à ce que, si un homme assez corpulent pousse une femme assez légère, eh bien, et vice-versa, ils se poussent l'un l'autre, eh bien, l'homme ira moins vite que la femme. En effet, c'est ce qui se passe, hein, le plus lourd ira moins vite. Et si, par exemple, il est deux fois plus massif, eh bien, il ira deux fois moins vite. Et à ce moment-là, les deux flèches qui se compensent, ce sont les quantités de mouvement, parce qu'il est deux fois plus massif, donc 2m fois v sur 2, pour une vitesse deux fois plus petite, eh bien, ça fait la même chose que mv. 2m fois v sur 2, ça se simplifie, ça fait mv. C'est la même quantité de mouvement avec des sens opposés, ce qui fait que la somme est égale à 0. Ok, j'ai perdu personne. On continue. N'hésitez pas, hein, si ça vous paraît plané, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors maintenant, on arrive à la physique de Newton, parce que Galilée a formulé ça d'une façon assez, langage commun, et Newton a bien formalisé les choses ensuite. Et c'est son fameux principe d'inertie qui est la première loi de Newton. On a déjà discuté ensemble. Tout corps, s'il n'est soumis à aucune force extérieure, persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Et là, on va jouer sur qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Ben, c'est ce qu'on décide, nous. Donc, ici, on va dire que le corps, c'est le moteur et son carburant. Et que quand le carburant et le comburant aussi, c'est-à-dire l'oxygène et l'hydrogène, par exemple, dans un moteur de fusée qui marche à l'oxygène et à l'hydrogène, eh bien, lorsque le moteur et son carburant fonctionnent, eh bien, on va avoir du gaz qui va s'échapper, mais on va considérer que le corps tout entier, il est toujours constitué du moteur d'un côté et du gaz de l'autre. On a le droit, on imagine une sorte de grande, gigantesque bulle qui entoure tout ça, et ça reste un seul corps. Donc, d'après le principe d'inertie, on a un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme de l'ensemble des deux. Mais comme les deux ont une certaine vitesse et une certaine quantité de mouvement, eh bien, ça implique que la quantité de mouvement totale reste constante. Donc, la quantité de mouvement du gaz qui part à droite, la flèche, le gaz sombre là, la flèche violette qui part vers la droite, compense la quantité de mouvement vers la gauche acquise par le réacteur, et évidemment si le réacteur est attaché à un avion ou à une fusée, acquise par l'ensemble de l'objet, réacteur plus avion ou fusée. Et on voit que finalement ce principe n'a pas besoin de l'atmosphère pour fonctionner. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur l'atmosphère. Je pense que on a tous eu une première vision de comment fonctionnait un moteur à réaction en pensant il y a du gaz qui s'échappe et qui s'appuie sur l'air et puis qui pousse l'avion dans l'autre sens. En tout cas, personnellement, quand j'étais enfant ou jeune adolescent, c'est comme ça que je voyais les choses. Et puis après, j'ai pu comprendre plus tard, en faisant des études, que c'était comme ça, ou en posant des questions au sujet de « mais comment ça marche une fusée dans le vide ?» Je me souviens plus exactement. Enfin, voilà comment ça fonctionne, et voilà comment on peut expliquer ça, en principe. C'est donc qu'on a le gaz qui part d'un côté, et le moteur qui part de l'autre, et tout ça, ça doit se compenser. Ok ? Alors, c'est intéressant de comprendre que plus le gaz sera chaud et donc à grande vitesse, par son expansion due à la chaleur, plus le moteur sera efficace. Et donc, si on fait un moteur à réaction à base de, par exemple, un moteur à réaction qui fonctionne, c'est un pistolet à eau. Vous êtes dans le vide, quelque part, près de la Station Spatiale Internationale. Si vous avez un pistolet à eau et que votre eau ne gèle pas, évidemment, c'est embêtant si elle gèle, eh bien, avec des petits coups de pistolet à eau, vous allez vous propulser en arrière du pistolet. Ça va marcher aussi. Ça ne va pas être très très efficace, parce que votre eau ne va pas aller très très vite, mais ça va vous propulser. Et ça peut vous éloigner de la station spatiale si vous n'avez rien d'autre pour compenser ultérieurement. Donc, faut pas jouer à ça si vous allez sur la spatiale. Faites attention. Voilà. Donc, blague à part, on comprend à ce moment-là comment fonctionne la fusée. Alors, maintenant, on va pouvoir enfin discuter du recul d'une arme à feu. Et là, on va parler du canon 75 et de son frein oléopneumatique. Alors, il a un intérêt historique parce que c'est les plans, si vous vous souvenez, si vous avez été intéressé un jour par l'affaire Dreyfus et le traître Esterhazy qui communiquait contre de l'argent, contre des sommes, des espèces sonnantes et trébuchantes à un attaché italien qui lui-même transmettait aux Allemands des informations militaires classées, et qui s'est bien satisfait du fait qu'on accusait Dreyfus à la place, eh bien, ils étaient artilleurs, ces gens-là. Ils étaient dans l'artillerie. Et il y avait un grand sujet qui était le canon sans recul. Alors, parce qu'en effet, un canon, eh bien, quand on tire, on voit ça dans n'importe quel film, quand on tire un coup de canon, l'obus part dans un sens et le canon part dans l'autre. C'est par exemple particulièrement gênant sur les bateaux de guerre. Quand on voit des reconstitutions de batailles navales, que ce soit la bataille de Trafalgar ou d'autres batailles avec des corsaires sur couf, etc., on entend toujours parler de canons qui roulent et en arrière et qu'il faut repositionner, etc. Bon, parce qu'on peut essayer de l'attacher avec des cordes, mais souvent ça cède. Alors, là, l'idée du canon de 75, donc, convoitait très fortement les Allemands, c'était l'idée suivante. Donc, vous avez en haut T1, donc le canon avant qu'il tire. T2, le canon vient de tirer. Et on voit reproduit en rouge et jaune les gaz produits par la combustion de la poudre explosive, donc l'explosion du gaz, qui pousse d'un côté l'obus, à droite, en gris, mais qui va pousser en jaune de l'autre côté le fût du canon. Parce qu'il y a conservation de la quantité de mouvement, donc si la force interne qui se produit par les forces internes qui se produisent par l'explosion agissent, elles agissent autant sur l'objet qui part à droite que sur l'objet qui part à gauche. Et la quantité de mouvement doit être la même. Alors même si le canon est beaucoup plus massif que l'obus, malgré tout, ça fait un certain mouvement. Car l'obus part très très vite. Peut-être 1000 fois plus vite, enfin, il y a peut-être un facteur 1000 dans les masses, mais durant le coup, il y aura un facteur 1000 dans les vitesses, mais si l'obus part à 1000 mètres par seconde, ce qui n'est pas absurde du tout, eh bien vous voyez que le canon très lourd part à 1 mètre par seconde, et il peut écraser les pieds des canonniers, et surtout ne plus être à la bonne position ensuite pour tirer une deuxième fois. C'était ça qui intéressait surtout les militaires. Donc, il y a un système ingénieux qui consiste à ce que la partie mobile jaune du canon appuie sur un réservoir d'huile qui lui-même appuie sur un piston qui va injecter de l'huile. Donc du coup, dans une enceinte qui contient aussi du gaz, de l'azote, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ce recul qui est transmis à de l'huile qui se déplace dans l'autre sens. Alors vous avez, en effet, vous avez un déplacement du centre de gravité de l'ensemble du canon plus de l'huile, mais le canon, lui, ne se déplace pas, ou presque pas, beaucoup moins en tout cas. Tout est transmis à l'huile. Et puis ensuite, l'azote, privé d'oxygène, qui a été comprimé par ce mouvement-là, eh bien, reprend sa place, et donc se détend de nouveau, mais lentement, et du coup, le mouvement du canon est très lent. Donc tout ça est amorti. Il n'y a pas annulation du mouvement du canon, c'est impossible. Mais il y a amortissement. Donc le mouvement du canon est beaucoup plus lent et il a tendance à osciller autour d'une certaine position. Donc ça permet évidemment de tirer une deuxième fois beaucoup plus vite. Toujours au même endroit. Donc de faire des tirs à répétition. Donc ça a été assez efficace et meurtrier. Et c'était donc convoité par nos ennemis héréditaires de l'époque. Puisque les ennemis héréditaires, ça change. À l'époque, c'était les Allemands. Puisqu'on venait de perdre la guerre de 70 et à perdre l'Alsace-Moselle, et c'était... tout le monde avait le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. Bien, donc je continue. Donc, maintenant, on va arriver au devoir de vacances. Alors, j'espère qu'on ne va pas être coupé. On verra comment ça marche. Magali, c'est le zoom
de Dirk.
Donc, on a une petite chance de ne pas être coupé. Tant mieux si c'est le cas.
Merci, Dirk.
Donc, ce que j'ai en tête, c'est que si vous allez dans des endroits autres que, je sais pas, le centre de Paris ou celui de Bordeaux ou de Toulouse pour les vacances, eh bien, vous allez pouvoir profiter des nuits douces d'été pour regarder le ciel, les planètes et les étoiles. Donc, une simple paire de jumelles, même pas d'excellente qualité, permet déjà de voir des choses très plaisantes. Donc je vous conseille, si vous avez des jumelles, de les emporter en vacances. Ça permet aussi de voir des oiseaux, des fois qu'on ne voit pas bien autrement. Et si vous n'avez pas de jumelles, c'est un très joli cadeau pour la fête des pères en retard, par exemple. Voilà. En tout cas, moi je me suis acheté une paire de jumelles à l'occasion de l'éclipse qui était visible dans le nord de la France en 1999. Et ça fait donc plus de 20 ans que je l'ai et j'en suis ravi. C'est une paire de jumelles 10 x 50 d'une marque Minolta, relativement bon marché, mais quand même de bonne qualité. Donc je ne sais pas combien ça coûte maintenant, mais à l'époque c'était de l'ordre de 1000 francs. Donc c'était un peu plus que 1000 francs. Donc ça doit rester relativement raisonnable et ça vaut vraiment la peine. C'est pas très lourd et ça s'emmène en balade. Et le soir, on peut regarder, ou le matin, on peut regarder Jupiter, la Lune, et par exemple la galaxie d'Andromède, et autre chose de ce genre-là. Donc, on peut voir facilement en se calant sur quelque chose le balai des satellites de Jupiter, qui cet été va se lever assez tôt dans la nuit, donc il n'y a pas besoin d'attendre 2h du matin pour le voir. On peut le voir, dès minuit, en tout cas vers la fin de l'été, dans le courant de l'été, ce sera le cas. On voit en même temps Saturne, qui est à côté, qui a une teinte un peu jaunâtre. Alors si on a un doute, on ne sait pas, la seule étoile hyper brillante qui se lève à cette époque-là, c'est Jupiter. Ça ne peut pas être Vénus, parce que Vénus reste toujours près du Soleil, donc ne reste pas visible très longtemps dans la nuit. Et ça sort vraiment du lot, parce que Jupiter a une magnitude... de 3-4 grandeurs de plus au moins que l'étoile la plus brillante du ciel d'été qui est Vega et qui lui, Vega, enfin elle, Vega, se trouve pratiquement au zénith. C'est l'étoile la plus brillante d'une petite constellation qui s'appelle la Lyre et qui fait partie de ces constellations qui ressemblent à peu près à leur nom, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à une Lyre, c'est-à-dire c'est une sorte de trapèze, voilà. Alors, le Vega fait partie du triangle d'été. Donc, le triangle d'été, c'est pas une constellation, mais c'est quelque chose de bien visible en été parce que on a les trois étoiles, les trois constellations qui sont en haut dans le ciel, proches du zénith. Donc, je vous ai déjà parlé de Vega pour la Lyre, et on trouve aussi Deneb, qui est l'étoile la plus brillante du Cygne, qui correspond à la queue du Cygne. Et aussi Altaïr, c'est-à-dire l'aigle, qui est l'œil de l'aigle, qui est aussi l'étoile la plus brillante de la constellation de l'aigle. Donc ces trois constellations se trouvent le soir, une fois que le crépuscule est bien tombé, c'est-à-dire vers 11h du soir ou même un peu plus tard, vous avez les trois constellations qui forment, leurs étoiles les plus brillantes chacune, forment un joli triangle, le triangle d'été. On voit évidemment assez facilement l'étoile polaire et des deux côtés, d'un côté la Grande Ourse et de l'autre côté Cassiopée. À côté de la Grande Ourse, on voit la Petite Ourse, dont une des étoiles est justement l'étoile polaire. Et si vous avez du mal à lire les cartes qui se trouvent facilement en vente pour quelques euros ou une dizaine d'euros maximum, les cartes du ciel qui permettent de repérer les constellations, si vous avez du mal à les voir, il y a un certain nombre de logiciels qui se mettent sur son téléphone, comme celui que j'utilise qui s'appelle SkyMap, gratuit, sans publicité, voilà, qui permet de bien repérer les constellations, ça fonctionne bien, et de repérer aussi les planètes, c'est-à-dire que c'est mis à jour, et donc ça vous guide avec une petite flèche pour regarder dans la bonne direction, pour voir les planètes et vous permettre de les reconnaître. Il faudra aussi écouter les annonces de pluie d'étoiles filantes. Donc il y en a plusieurs en été. Et de toute façon, il y a pas mal d'étoiles filantes. Évidemment, au crépuscule, vous avez aussi le passage de beaucoup de satellites. Alors ils passent aussi la nuit, mais comme c'est la nuit, ils sont dans l'ombre de la Terre, eux aussi. Et donc on ne les voit pas passer, parce qu'ils sont sombres. Alors qu'au crépuscule et un petit peu après, eux sont encore éclairés par le soleil, donc on les voit bien. Voilà le genre de choses intéressantes. Si vous regardez, vous prenez des repères, en un mois de vacances, vous pourrez voir que Jupiter et Saturne changent de position l'un par rapport à l'autre. Alors en mouvement relatif, Jupiter étant beaucoup plus proche de nous que Saturne, on va dire que c'est le mouvement de Jupiter par rapport à Saturne, mais ça n'a pas plus de sens qu'autre chose. Et donc voir s'il se rapproche ou s'il s'éloigne. Je vous laisse juge. Et on pourra parler de tout ça à la rentrée. Alors Mars est visible aussi, et se lève plus tard que Jupiter et Saturne, mais est bien visible dans le ciel nocturne. Alors oui, les nuits sans lune seront aux alentours du 20 de chaque mois, alors c'est 28 ou 29 jours, une lunaison, donc là pour l'instant on est juste à la nouvelle lune, donc c'est le bon moment, aux alentours du 21 juin c'était le bon moment, et donc ce sera aux alentours du 20 juillet, peut-être 18 juillet, mais quelques jours avant et quelques jours après, c'est très propice parce qu'il n'y a pas de lune, le ciel est bien noir. Voilà, ce sera aussi aux alentours du 15 août, quoi. Que seront les nuits les plus noires. Voilà, écoutez, ça fait 40 minutes que je parle, pratiquement, donc je pense que c'est bien. Je sais pas s'il y a des réactions, des remarques, des suggestions, mais de mon côté, j'ai fini.